ta munition.
On fait demi-tour?
Non, y a pas le temps.
Bon, il y a un mystère, je vous éclaircis.
Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence.
Dans 2 minutes, elle va devenir une... Une zombie, pas un vélociraptor.
Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle.
A besoin de vous faire un dessin.
Salut monsieur Masque.
Bonjour monsieur tronçonneuse.
Une très bonne année, longue vie et prospérité, comme dit un célèbre prophète Vulcain.
Oui, c'est ça, longue vie et prospérité, et puis pour qu'on puisse sortir. Hein, on finit à 8h ce soir, parce qu'à 8h c'est fermé.
Ah oui, mais c'est 18h normalement. Ah non, c'est à partir de samedi.
Ah oui, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai, je suis samedi. Vous êtes sur l'autre radio?
Ah oui, sur l'autre radio.
107.9 et à Laval, c'est combien?
101.7. Ah, c'est bon, c'est bon.
Vous écoutez le masque et la tronçonneuse.
Ah,
et aujourd'hui, on va vous raconter nos vacances, un petit peu. Enfin, surtout toi, parce que tu as fait peut-être... Bah oui. Bah,
j'ai fait des devoirs d'école. J'ai été voir des
c'est
films.
Ça. Alors que moi, j'ai dormi dans mon canapé.
Quand je dis j'ai été voir des films, je mens un peu parce que j'ai été voir des films dans mon salon.
C'est ça.
Je suis très déçu, permet... monsieur Masque. Pardon, je te coupe, mais je suis très déçu. Je pensais que cette année serait mon année. Je pensais qu'on ferait une année tronçonneuse et on vient de repiquer une année masque.
Oui, c'est ça.
Je suis déçu.
Non, et puis de toute façon, la tronçonneuse, c'est fini, puisque l'année prochaine, ce ne sera pas une année tronçonneuse. Vu qu'il n'y aura plus d'essence, ce sera une année machette.
Ah mince. Bah, on fera le masque et la machette.
Ce qui se lit sur Internet, ça, j'en suis pas sûr, c'est que Mad Max se déroule en 2021.
D'accord.
Alors j'aimerais savoir lequel, le premier ou le deuxième.
Tu le sauras bien assez tôt.
Oui, c'est ça. Donc on va voir.
Donc oui, effectivement, j'ai fait des devoirs de vacances. Je me disais que ça serait pas mal pour démarrer l'année de parler des films qu'on a vus à Noël. Donc des films de Noël, ça s'appelle. Et j'ai fait une petite liste des films que j'ai bien aimés, parce que j'ai aussi vu des navets. Voilà. Donc je vais plutôt parler des films qui m'ont fait un bon effet. Et je vais parler dans l'ordre d'un film d'apocalypse zombie, d'un film d'apocalypse maison, d'un film d'apocalypse dans l'univers et d'un film d'apocalypse en dessin animé. Bref, je me suis dit, on va finir l'année comme on va la commencer, c'est-à-dire de bonne humeur.
Ah, moi, j'ai pas regardé beaucoup de films. J'ai regardé ton film de l'apocalypse en dessin animé. J'en ai vu quelques-uns que j'ai abandonné en cours de route. Voilà. Et puis il y en a d'autres que j'ai pas tenté, mais je crois que tu vas essayer de me convaincre qu'il faut tenter le coup quand même.
Et oui, je sais qu'il y en a un qui t'a été mal vendu et je vais essayer de te le revendre.
C'est ça.
Donc, parce qu'en période de pandémie, il faut aussi savoir recycler. C'est important.
C'est ça, c'est ça. Il faut faire le moins de déchets possible et consommer local.
Et voilà. Eh ben, on va consommer local, je te propose, avec un premier film de 2017. Alors, c'est local, oui et non. C'est un film anglais qui s'appelle Anna et l'Apocalypse. Et la traduction est juste, hein, puisque le titre anglais, c'est Anna and the Apocalypse. Donc là, ils ont fait simple. Un film donc anglais de 2017, de John McPhail, donc un réalisateur qui n'a pas fait grand-chose de notable, qui a fait quelques épisodes de séries, des choses comme ça, et qui donc est venu vers le cinéma avec une petite curiosité donc, dont je vous parle, donc Anna et l'Apocalypse. Alors c'est un film, comment je vais dire, c'est un mélange qui est, à mon sens, réussi de teenage movie, comédie musicale, film de zombies et film de Noël. Voilà. Le casting... on a Ella Hunt dans le rôle de Anna. Alors Ella Hunt, on peut la voir dans la série Dickinson, parce qu'elle fait la saison 1 et 2 sur Apple TV. Et puis après, on a des acteurs un peu moins connus. On a Mark Benton, qui a tourné dans des séries, mais qui fait souvent des petits rôles. On a Paul Keyes, qui joue le rôle du proviseur Savage. Alors lui, on l'a vu dans Afterlife, une série de Ricky Gervais. et dans d'autres épisodes aussi de Catherine the Great et de Game of Thrones. Et puis on a d'autres acteurs très peu connus sur qui, en tout cas, j'ai pas trouvé grand chose de notable, Malcolm Cumming et Sarah Swire. Alors, le casting est modeste, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour autant, il est très intéressant. Les acteurs s'amusent bien. Mais avant, je vais peut-être vous parler de l'histoire. Ça serait bien. Donc, on est dans une ville qui s'appelle Little Haven et qui voit son Noël menacé par une apocalypse zombie. Anna et ses amis vont devoir se battre, trancher et chanter pour survivre. Et ils découvrent rapidement que personne n'est à l'abri dans ce nouveau monde et que la civilisation s'effondre autour d'eux. Les seules personnes sur lesquelles elles vont pouvoir compter, bah, sont celles avec qui elles sont. Voilà, donc c'est eux-mêmes. Le film n'a pas été très très bien accueilli par la critique. Hein. J'ai regardé un petit peu, il a une note qui souvent flirte avec la moyenne. Et il ne fait pas l'unanimité pour plusieurs raisons que je ne partage pas, en fait. Alors, c'est un film où le score est souvent trop orienté du côté de la pop sauce Glee. Glee, c'est une série américaine de comédie musicale. C'est très léger, mais c'est léger dans tous les sens. Ce n'est pas que un compliment. Et donc, beaucoup de gens font le... font le rapprochement avec Glee, et moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, pour moi, le film est d'une incroyable modernité, en fait, qui colle complètement à notre époque pandémique. Hein, et je vais vous en parler tout à l'heure, enfin, je vais vous le prouver avec le morceau là, qui va suivre, qui s'appelle Human Voice. Il fait voler en éclat complètement la bien-pensance, en fait, que l'on peut trouver chez Glee, avec des chansons, une chanson qui est complètement dingue, à double sens, lors de la fête de l'école, où tout est explicite sans l'être. C'est-à-dire, c'est une nana qui chante, et en fait, toutes les paroles sont construites pour être entendues dans deux sens. Donc forcément, dans l'assistance, tout le monde entend les deux sens, à part deux, trois pécores qui applaudissent. Et c'est très drôle, ce passage, et moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a quelques chansons qui sont terribles. C'est-à-dire que, par exemple, Human Voice... Alors, je vous en parle et on va l'écouter, le morceau. Hein. L'introduction, elle est faite par le proviseur, en fait, Savage, hein, et il est très clair. L'humanité est au seuil de sa fin. Le refrain, c'est « I need a human voice », j'ai besoin d'entendre une voix humaine, en fait. Ce qui renvoie complètement à la solitude que la pandémie zombie inflige à des jeunes ados qui sont à la frontière de l'âge adulte. Et ça fait vraiment penser à notre époque, quoi. Il n'y a plus de contact possible. La morsure et sa salive sont contaminantes. Tiens, on dirait un Covid. Ça peut vous transformer en mort-vivant. L'insouciance rappelle à l'ordre, d'ailleurs, dans un moment de pur mélodrame. Voilà, lorsque deux jeunes amoureux s'embrassent, ils se condamnent complètement sciemment. Mais en fait, la fougue de la jeunesse fait que ben voilà, c'est l'amour-passion qui va les guider. C'est fuck. Ils envoient tout valser. Et puis ben, finalement, ils se contaminent quand même. Et c'est une scène qui est très dramatique d'ailleurs sur le plan visuel, qui est drôle parce que le film c'est une comédie, encore une fois, hein, c'est une comédie musicale, mais quand même ça laisse un petit goût amer, quoi. Et c'est une mélancolie qu'on va retrouver aussi sur une autre chanson qui s'appelle I Will Believe, je voudrais croire, avec un refrain, c'est Where is the Light. Et ce refrain, Where is the Light, est chanté par à plusieurs voix, et toutes les personnes qui le chantent sont les personnes qui sont en train de se transformer en zombies. Donc, autant dire que ça donne pas ça donne pas vraiment bon espoir, quoi. Donc ça sonne vraiment comme la fin des illusions, en fait, de l'adolescence, avec une fatalité complètement plombante face à cette épidémie. J'ai dit que ça collait à l'époque ou pas?
Oui, t'as dit que ça collait à l'époque, ouais. Et en plus, ouais. la jeunesse qui prend cher, ouais, ça colle très très bien.
C'est tout à fait ça, ouais. et c'est voilà. Et ceux qui veulent y croire, en fait, sont complètement... alors, je spoil un peu, mais finalement, ceux qui disent « I will believe », bah, on ne donne pas cher de leur peau, quoi. Et malgré tout, la séquence prête à sourire. C'est-à-dire que y a ces deux niveaux de lecture. C'est-à-dire, à la fois, on assiste à un film de zombies avec tout ce qu'il y a de gore. On assiste à un film hyper fataliste et on assiste à une comédie musicale. Je précise que c'est à voir en VO, vraiment. Si je le dis, c'est parce que la VO est difficile à trouver, mais quand même, je suis un gars bien, je vais vous donner les tuyaux. Alors, on peut la trouver donc en DVD, voilà. Alors, sur le DVD, je ne sais pas s'il y a la version originale sous-titrée, j'ai des doutes. On peut la trouver en VOD sur Amazon Prime, et là, c'est sûr, j'ai regardé, il n'y a que la VF. Alors, quand je dis à la VF, c'est ils parlent en français, ils chantent en anglais et il n'y a pas de sous-titres. C'est assez chiant parce que le passage français-anglais, déjà, les voix correspondent souvent pas. Mmh. Et puis, quand il n'y a pas de sous-titres, on perd le film. Enfin, moi, je ne parle pas anglais suffisamment couramment pour ça. Et enfin, on peut la trouver en version originale sous-titrée en français sur la chaîne, la plateforme de VOD qui s'appelle Shadows. J'en ai déjà parlé de cette plateforme. C'est une plateforme française. Je fais un peu de pub. Je suis désolé, j'en profite, mais qui n'est pas très chère. Elle est à 5 euros par mois. Donc, c'est vraiment en dessous de la plupart des plateformes. Et c'est que des films de genre. Donc, et ils ont de très, très bonnes programmations. Donc, si vous voulez vous amuser avec Anna et l'Apocalypse, c'est sur cette chaîne-là qu'il faut aller, enfin, cette plateforme-là. Et j'en reparlerai de Shadows parce que je ne me lasserai pas de vanter les mérites de cette initiative-là. Voilà.
Oui, ça a l'air tout à fait intéressant. Je connaissais deux noms, mais je n'étais jamais allé sur le site. Mais ah,
je t'invite à...
Il y a des choses... Ouais.
On n'a pas le droit de faire de prosélytisme, mais quand même, je t'invite à t'y abonner. Il y a vraiment des bijoux.
Juste en regardant vite fait, là, je vois qu'il y a, dans ce que j'ai vu, il y a 30 jours de nuit, il y a comment...
On peut revoir
Scanner. J'ai vu qu'il y a Scanner, il y a Martyr, il y avait Carrie, le Carrie de Palma, a priori, ou alors c'est le remake, je ne sais pas trop.
Non, c'est le de Palma, tu as raison.
Il y a un que je conseille fortement, que je viens de voir là, c'est Blue Ruin, qui est une merveille.
Eh oui.
C'est une vraie merveille, ce film. Merci Atmosphère 53, grâce à eux, j'ai pu le voir sur un grand écran. Voilà, mais il y a vraiment, ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa pour 5 euros par mois. Il y a la collection d'Hellraiser aussi. Il y a quelques Shark Spotation.
Voilà. Oui, mais il y a de tout. Mais dans le il y a de tout, il y a un bijou qui s'appelle Anna et l'Apocalypse. Hein, c'est pas le seul, ouais. Mais c'est là où je l'ai vu. Et c'est là où je l'ai vu en version originale sous-titrée. Et grand merci à eux. Si tu es d'accord, d'ailleurs, je te propose. Peut-être, je dis peut-être parce que si Joël arrive à son poste, je te propose d'écouter Human Voice qui est extraite du film Anna et l'Apocalypse.
Sunday we'll talk.
Eh ben merci. Un petit, je reprécise ce que peut-être un détail quand même que j'ai pas précisé. Ça reste un film gore. Hein. Il y a des zombies dedans. On a perdu Fabrice. Allô, allô.
Vas-y, vas-y.
On a perdu Fabrice. C'est pas grave. Le temps qu'il revienne. Il revient. Ça, c'est les joies du direct et du et les joies aussi de la visioconférence. En attendant que tu reviennes, Fabrice, je
tu me vois, tu m'entends?
On te voit et on t'entend, c'est super. Sinon, j'étais prêt à enchaîner. On va peut-être parler de His House, qui est un film de 2020.
Encore, ouais, un, film enchaîne.
Encore un film anglais de Rémi Wicks. Alors, Rémi Wicks, c'est un réalisateur de 31 ans, c'est son premier film. Et pour un premier film, moi, je lui dis bravo, parce qu'il y a une maîtrise de la mise en scène qui est assez fabuleuse. Au casting de ce film His House, alors, le film en lui-même c'est un film d'épouvante, enfin, c'est encore un mélange des genres comme j'aime bien, c'est un film d'épouvante, thriller et c'est un drame. L'histoire en fait c'est un couple qui après avoir fui les horreurs de la guerre du Soudan du Sud-Soudan en fait, un jeune couple de réfugiés va peiner à s'adapter à la vie dans une ville anglaise alors qu'on les met à l'épreuve pour démontrer aux autorités qui pourraient être accueillies sur le sol. Au casting, pardon. Donc, on y retrouve Wunmi Mosako, qui est une actrice qui joue Rial, qui est l'un des deux rôles titres. On a pu la voir dans Luther et dans Lovecraft Story, deux séries de qualité. On retrouve Sopedi Risou, qui joue le rôle de Bol, le deuxième rôle titre, un acteur qu'on a pu croiser dans Gangs of London. Très, très bonne série. Ça faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Et aussi dans His Dark Material, et on rencontre aussi dans la série Matt Smith, qui joue le rôle de Mark, et Matt Smith c'était le 11e docteur dans la série Doctor Who, on le trouve aussi dans The Crown, et bientôt dans un spin-off de Game of Thrones, The House of the Dragon. Donc je disais encore un film de notre époque, parce que c'est surtout un drame du parcours ô combien traumatique des réfugiés dont il s'agit là, hein, qui perdent tout jusqu'à leur sens moral pour survivre, et dont les démons ne les lâcheront plus. C'est un film de genre, je le disais, hein, ça reste un film d'épouvante et thriller, mais où l'allégorie en fait, du PTSD, du syndrome post-traumatique, est ici complètement glaçant, où chacun va devoir vivre avec ses démons, et croyez-moi, quand je dis que je n'en voudrais pas le quart de ce qu'ils ont avec eux en termes de démons, puisque là c'est au sens propre du terme, mais encore une fois, c'est très métaphorique. Et le film a plusieurs niveaux de lecture, et plus on s'enfonce dans ces niveaux de lecture, plus on va quitter le domaine du film d'horreur pour entrer vraiment dans une autre horreur qui est celle de notre époque, celle d'une époque complètement folle où les gens vont devoir fuir leur pays sous les bombes, ne pas être accueillis comme il faudrait, selon les conventions de Genève notamment, dans des pays plus en paix et plus apaisés, quoique.
Et qui fabriquent une partie des bombes qui se prennent sur la tronche.
Oui, tant qu'à faire, hein. Tant que ce soit ce qu'on appelle l'économie circulaire.
C'est ça.
Ravi de te retrouver. Alors ce film-là, c'est un film de 2020, on ne peut pas le voir sur grand écran malheureusement, mais on peut le voir sur Netflix, parce que quoi qu'on veuille bien en dire de Netflix, et le mal qu'on veuille en dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de mal qui peut en être dit par des réalisateurs, il y en a d'autres qui vont vraiment les remercier. Parce que Netflix finance aussi des chefs-d'œuvre, il ne faut pas avoir peur de le dire, il finance des films de Scorsese qui n'ont pas trouvé de financement ailleurs, pour par exemple The Irishman, ou des films de David Fincher qui n'a pas trouvé de financement ailleurs pour son film ô combien génial qui s'appelle Manque, voilà. Dont on pourra peut-être aussi parler un de ces quatre. Je ne sais pas si tu as vu ce film, His House, je ne saurais que trop te le conseiller pour qu'on puisse
en C'est noté.
Donc, un très bon film. Je te passe la main, peut-être. Tu voulais nous parler d'un film avec Elisa avant que je continue. Sinon, je prends la parole et puis je te laisse.
Ah non, non, non. Moi, c'est pas du récent. Bien au contraire. C'est dans les soirées d'hiver, les soirées de Noël. Moi, c'est ce que j'aimais bien quand j'étais gamin et ce que j'ai réussi à faire avec ma fille, puisque ma fille, maintenant, est assez grande pour qu'on puisse faire ça en partie. On en reparlera notamment pour le dernier film dont on va parler, donc Saul. Mais là... on a eu l'opportunité pendant les vacances de Noël, comme beaucoup de familles, de faire des soirées cinéma. Et donc Arte diffusait un film hyper cucu, hyper machin, mais que j'aime beaucoup, c'est La vie est belle de Capra. Je sais pas si tu es toujours là, Laurent.
Toujours.
Donc, un film de 1946 avec James Stewart, Donna Reed et Lionel Barrymore, donc réalisé par Frank Capra, qui raconte la vie d'un, on va dire, d'un mec bien, d'un mec ordinaire, comme dans la chanson de Comment des Innocents, mais un homme extraordinaire qui se bat, qui travaille, qui est honnête et qui fait le bien autour de lui, mais sa vie est semée d'embûches. Et donc, on voit tout le début de sa vie, tout ça. Et puis, un soir, il y a une journée qui se passe très, très mal, c'est le soir de Noël. Et donc, il se retrouve face à un gros problème qui, pour le coup, l'arrête. Et il ne voit pas de solution, donc il décide de se suicider. Il se rend sur un pont et là, il va rencontrer son ange gardien qui va lui offrir l'opportunité de voir ce que le monde serait si lui n'avait pas existé. Voilà. Et la petite ville relativement paisible où il vit est beaucoup moins paisible sans lui, malgré tout. Voilà. Et c'est un film qui on voit son âge, c'est un film qui est... on peut considérer un peu cucu, tout ça, mais moi, je trouve que c'est un film très optimiste et vraiment bien pour... c'est pas quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, mais c'est quelqu'un qui, sans lui, le monde serait un petit peu moins beau, enfin un petit peu plus pourri, on va dire. Et comment, ce qui peut ramener à ce qui s'est fait, aussi à ce qu'on vit actuellement, ou comment on nous a parlé. Et puis trouve. Et voilà, donc ce joué par James, malgré l'âge, quand même la condition de la femme dans ce film est très datée.
Ouais, mon cher ami Fabrice, je suis désolé pour toi. C'est vrai que pour une fois, c'est moi qui ai la bonne connexion. C'est un truc de taré. Parce que Dieu sait que j'habite dans le trou du cul du monde, bon, en tout cas juste à côté. Alors, ce que je propose peut-être avant d'enchaîner, puisque effectivement, on a encore deux films à évoquer, puis j'aurais bien aimé qu'on échange ensemble sur le deuxième, Fabrice. Peut-être se faire une petite pause musicale, ce qui peut nous permettre de recalibrer la connexion de Fabrice. Voilà, désolé, c'est effectivement les joies du direct et les joies du confinement.
Donc, je mets lequel morceau ? Le tien ou
celui que tu veux, Joël. Non, non, le mien, ça sera à la fin, Joël.
Celui de Fabrice, c'est parti.
C'est parti.
Mehmet'im, sana küstüm demedim. Karayosun bağlıyor ordunun dereleri. Karayosun bağlıyor, kalk git delim sevdiğim. Annem evde ağlıyor, sürmelim aman. Kalk git delim sevdiğim. Annem evde ağlıyor, sürmelim aman.
Merci beaucoup pour ce petit morceau, cher ami. Est-ce que la connexion est revenue, Chavris ? Ou pas ? Ça va être ou pas, je pense. Donc, on va continuer avec un autre film. Tant pis, tu participeras pas. Hein. Qui s'appelle
Minuit. Moi, je suis là, mais je vais couper.
Ah. Qui s'appelle Minuit dans l'univers. C'est un film de 2020, un film américain de George Clooney. Alors, George Clooney...
Tu m'entends pas ?
Mais si, on t'entend, ça y est.
George ah bon, Clooney, bah c'est bon.
Tu connais George Clooney ou pas? Donc, George Clooney à la réalisation, c'est pas George Clooney acteur, quoi qu'il joue dans le film aussi. C'est un bon réalisateur, George Clooney. On lui doit bienvenue à Suburbicon.
C'est le mec qui vend du café.
C'est ça. C'est le gars qui boit du café. Donc, Monument's Men aussi. Hein, et bientôt, un film sur un joueur de baseball qui s'appelle Calico Joe. Au casting de Minuit dans l'univers... On trouve bah, George Clooney, l'acteur. Hein, ça, je vais pas
le. Je pense que c'est le gars qui boit du café.
C'est lui, tout à fait, qui joue le rôle d'Augustine Lofthouse. J'aime beaucoup d'ailleurs le nom de famille qu'il a choisi pour son personnage. Ça lui va bien. On trouve Felicity Jones. Felicity Jones, c'est une actrice qu'on a pu voir dans Rogue One. Elle avait le rôle titre. Et puis dans une série qui s'appelle The Aeronauts, qu'on peut voir sur Amazon Prime. Et elle joue le rôle de Sully. Et enfin, il y a un petit casting qui est plutôt sympathique, mais je ne vais pas tous les citer. On trouve Kyle Chandler. Alors, Kyle Chandler, c'est un acteur qu'on a pu voir dans Argo, dans Le Loup de Wall Street et dans l'excellente série qui s'appelle Bloodline. Le pitch du film. Alors, on est en 2049. La Terre vient d'être ravagée par de multiples radiations et catastrophes naturelles. Et Augustine Lofthouse, qui est un scientifique émérite, travaille seul dans l'observatoire Barbeau dans le cercle arctique. Et comme le reste des survivants, il est malade, très affaibli, et il cohabite avec une petite fille qui s'appelle Iris, qui a réussi à se cacher lors de l'évacuation de la base arctique. Dans l'espace, en parallèle, le vaisseau spatial ASR et son équipe d'astronautes tentent de revenir sur Terre après une mission de 2 ans sur K23, un satellite de Jupiter potentiellement habitable. En fait, il y a plusieurs vaisseaux qui ont été envoyés dans l'espace, c'est le seul à revenir. Et à bord, on a un équipage très réduit, hein, ils sont 8. Et Sully donc, est en charge des communications. Elle tente de contacter la Terre parce qu'ils ignorent tout des événements survenus sur Terre. Et c'est Augustine qui réceptionne en fait l'appel. Et au départ, il va tout faire pour d'abord pour éviter de prendre l'appel. Et puis, il va finalement s'engager avec la petite fille Iris dans un périple vers une autre base pour trouver une antenne capable de faire la liaison avec l'équipage de l'ASR et les convaincre de faire demi-tour, donc de ne pas revenir. On est dans un film alors apocalyptique encore, pardon. J'aime ça, les films apocalyptiques. Je trouve que ça colle bien avec l'époque. Et je me dis que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le film qui est tout à fait dans le bon ton. Mais... Et là, donc pas de gore, hein, pas de chanson, pas d'humour non plus. C'est un film qui est d'une mélancolie assourdissante, qui est d'une fatalité pour notre espèce, parce que d'un seul coup, il est trop tard. Il est trop tard pour les grands discours, il est trop tard pour agir, il est trop tard pour chercher les solutions. Et en fait, ça ne fait pas des années que les scientifiques nous alertent sur ce sujet, il me semble, pour ce qui est ma part. Et George Clooney a décidé de dire bah, « on a dépassé le seuil ». Pour moi, il filme un film d'une justesse, en fait, Alors, tu disais, Fabrice, que le film t'a été mal vendu parce que lent et ennuyeux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un film qui est éminemment politique, qui est une charge ouverte contre les Trump, les Bolsonaro et tous les gens foutres de l'écologie et du climato-scepticisme, avec un sentiment amer en fait dans ce film que quoi qu'on fasse en fait, bah, on part dans le mur en klaxonnant quoi. Et c'est une course complètement folle, voilà, qui ne peut aboutir qu'à notre propre destruction. Et voilà, et ça fait mal au cœur, mais dans ce film, l'humanité est foutue. Et elle est foutue à double titre.
Bah, je t'entends.
On t'entend, Fabrice. Hein. Elle est foutue à double titre, puisqu'elle est foutue sur Terre et elle est foutue dans l'espace, en fait. C'est un film qui ne laisse aucune...
Ouais, mais il y a un gros décalage.
Tout à fait. On peut dire ça. Il y a un gros... non, si tu m'as coupé. Oui, c'est un film qui est... Voilà, qui est, bon, qui est je vais le redire, mais qui est vraiment à charge, ou à décharge, en tout cas pour l'humanité, qui est foutu. Quoi. Alors, il y a quand même un truc qui est bien dans ce film-là, c'est qu'il y a un chouette double twist final. Qui vient un peu nous consoler, même si en ce qui me concerne, je l'ai vu arriver un peu vite, un peu comme je vois bien vite l'inexorable en ces périodes troubles, en fait. Voilà, et je ne parle pas du virus, mais de l'autre du virus, c'est-à-dire l'humanité, parce qu'on continue à faire de la merde. Pardon, à faire n'importe quoi. J'aime beaucoup ce que fait le gouvernement, c'est vrai que c'est enregistré, donc il faut dire... faut dire les bonnes choses. C'est un film qui fait penser à Gravity pour ses séquences spatiales, et elles sont très réussies. On n'est pas dans le... On n'est pas dans un remake, mais on pense forcément à Gravity. Et puis, on pense aussi à un autre film, c'est le film La Route, voilà, qui est adapté du best-seller de McCarthy. Parce que de Gravity, on a les séquences spatiales et puis cette espèce de temps suspendu. Et vraiment, on est dans du temps suspendu, là. Et pour La Route, eh ben, on est plutôt sur le côté de l'errance en fait, du personnage principal vers... finalement vers l'inéluctable. Par les temps de pénurie de toile tendue en salle obscure, eh ben c'est encore sur Netflix que ça se regarde. Et merci Netflix pour avoir diffusé le film. Ce n'est pas une production Netflix, je crois, c'est vraiment une production destinée au cinéma, mais c'est Netflix qui s'y est collé pour pouvoir lui donner finalement un accès au plus grand nombre. Et moi, je remercie la chaîne de ça. Pour moi, c'est un très très bon film, voilà, qui est très poétique, qui est très lent effectivement, mais c'est une lenteur qui pour moi ne va pas à l'encontre du film, clairement pas. Il y a énormément de choses qui sont très justes dans le jeu d'acteur. Bon, George Clooney est un très bon acteur, mais il s'est bien entouré. Et puis il y a un espèce de fil rouge quand même qui nous tient en haleine tout le long du film, c'est-à-dire est-ce que le vaisseau va finalement rentrer sur Terre ? Parce que même si George Clooney leur demande de ne pas le faire, eux, ils veulent le faire. Ils veulent revenir. Et parce qu'ils sont encore pleins d'espoir par rapport à ce qu'ils ont découvert. Et puis, il y a aussi la question de cette petite fille avec George Clooney, quoi, parce que si George Clooney est condamné, elle, non. Donc, je ne vous en dirai pas plus, d'ailleurs. Mais c'est un film, voilà. J'espère, Fabrice, que tu auras l'occasion de le voir et qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble.
Mais, si Internet refonctionne.
Eh bien, Internet refonctionne, on t'entend bien.
Ah, bah c'est bien, parce que j'avais au moins 10 secondes de décalage. Oui, donc je disais par rapport à ça. Donc je nous taisais.
Ça, c'est pas d'habitude.
Voilà. C'est que, ouais, je suis tombé sur une comparaison avec Ad Astra, que moi, j'avais beaucoup apprécié au cinéma, malgré.
Détesté.
Malgré beaucoup de défauts et une fin relative, enfin pas une fin, mais des raccourcis, des ellipses un peu débiles.
C'est ça.
Mais le film était très beau et on m'a dit qu'il était chiant. J'ai lu une critique, la critique notamment du Canard Enchaîné qui disait qu'il était, il le comparait à Ad Astra et je me suis dit, bon, Ad Astra, je veux bien le voir, mais sur grand écran quand même. Donc à la télé, j'avais peur de vraiment m'emmerder, quoi.
Voilà. Ouais, il y a des gens qui ont des grands écrans chez eux et ils ne s'emmerdent pas à le regarder.
Non, mais moi, quand je dis au cinéma, c'est sur grand écran et puis regarder ça avec des gens que je connais pas. Avec des gens autour, hein, voilà, qui réagissent en même temps avant, toi ça. Ou pas. C'était avant.
Alors, le film, alors Ad Astra, moi, je ne le compare pas à Ad Astra parce que Ad Astra, je me suis ennuyé, notamment pour les raisons que tu as évoquées. Hein. Il y a énormément de bêtises dans ce film et énormément d'ellipses. Et puis, le scénario est très mauvais pour moi. C'est autre chose. Par contre, ce film-là, moi, je vais plutôt le comparer à... effectivement
Moon.
à un film un peu comme, par exemple, Seul sur Mars. C'est-à-dire un truc qui est vraiment dans un temps suspendu. Sauf que, bah, que ce soit Seul sur Mars ou Gravity, ce sont des films qui, quand même, finalement, finissent relativement bien. Alors que là, sans rien spoiler, de toute façon, le point de vue du départ annonce déjà une fin tragique. C'est vraiment un film tragique. Voilà. J'espère que tu auras l'occasion de le voir. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et moi, je ne peux que le conseiller. Voilà. Et je n'ai pas trouvé de moment où je me suis ennuyé. Il y a une séquence qui clairement fait penser à Gravity. Et je pense que George Clooney a énormément aimé le film Gravity dans lequel il a tourné. Mais il a aimé le tourner parce que cette séquence-là est une séquence hommage. Et qui est d'une violence redoutable, d'ailleurs, sans en dire plus, qui est très très bien faite.
D'accord.
Beaucoup plus flippante que dans Gravity, en fait. Voilà. Pour ce film-là.
Moi, sur Netflix, là, ça va être vite fait. Sur Netflix, j'ai découvert The Old Guard et j'ai tenu 20 minutes. Voilà.
D'accord.
Le film avec Charlize Theron, je ne sais pas si tu es tiré du comics.
Alors, je ne l'ai pas vu.
C'est un genre de Highlander avec des mercenaires justiciers qui parcourent le monde et qui sont immortels. Et c'est l'immortalité qui peut prendre fin à n'importe quel moment. Et donc, il y a Charlize Theron qui joue... Pardon ?
C'est pas cool.
Non, c'est pas cool, mais...
C'est immortel. Voilà. Ah, non, on peut...
Voilà, pas ce coup-ci. Et donc, Charlize Theron, il joue... un personnage qui est assez proche de Furiosa, mais en dépressif encore plus. Et puis, c'est... Voilà, c'est... Enfin, j'ai tenu 20 minutes, voilà.
Bon.
J'ai eu l'intuition qu'il y avait un traître dans la bande. J'ai eu la confirmation par quelqu'un qui a réussi à aller jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est... Bref. Voilà.
Bon. Bah écoute, regarde, plutôt que de perdre ton temps à regarder un mauvais film, regarde Minuit dans l'univers.
Ben, ce sera fait, c'est noté.
Et puis, bah, peut-être faire une petite pause musicale. Ah si, alors moi, je veux bien parler d'un autre film avant de refaire une pause musicale, parce qu'on l'a fait il y a quand même pas si longtemps que ça. Je veux bien parler de Mulan, parce que j'ai vu le film, Mulan. Mulan, c'est le... Alors, je ne parle pas du dessin animé, c'est le film live, on dit comme ça, produit par Disney. Diffusé sur Disney+, puisque normalement destiné aux toiles, mais comme il n'y a pas de cinéma, Disney a eu la gentillesse, on va dire, de le mettre sur leur chaîne de VOD. Grosse déception. Alors, pourquoi ? Parce que ce qui faisait le charme du dessin animé, alors là, je sais que tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Ce qui faisait le charme du dessin animé, c'était d'abord la possibilité d'y invoquer des personnages... comme le dragon, par exemple, qui a un personnage à part entière dans le dessin animé avec qui elle interagit. Ça a quand même permis un des meilleurs scores, à mon avis, parmi les meilleurs scores chantés de dessin animé de Disney. Il y a quand même des séquences qui sont très, très chouettes quand elles sont chantées. Donc là, comme on dit sur du film live, ils ont viré les chansons, ce qu'ils n'ont pas fait pour d'autres films, d'ailleurs. Donc là, ils les ont virées, ils ont pris ce parti pris. Ils ont essayé de faire un film avec des gros guillemets, parce que c'est vraiment des gros guillemets qu'il faut mettre, historique, en tout cas qui se veut historique, c'est raté. C'est un film qui a perdu tous les aspects qui faisaient le charme du dessin animé, c'est-à-dire le côté humoristique de certains personnages et certaines interactions. La condition de la femme, de l'émancipation de la femme qu'on peut retrouver dans Mulan, elle est un petit peu moins prégnante dans le film live. Et puis, comme Disney a voulu aller tourner en terrain, je crois, en terrain ouïghour, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour ne pas fâcher le gouvernement chinois, et ça se voit. Voilà. Donc, c'est dommage, parce que ça aurait pu donner un chouette film live s'ils avaient gardé peut-être ce qui faisait le charme du dessin animé, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça génial.
Je suis pas très accro aux adaptations live. Aux adaptations live des Disney. Ouais, mais je vois pas l'intérêt.
Celle-ci,
en fait.
Non. Il n'y a pas grand intérêt, mais pourquoi pas, tu vois. Mais celle-ci est ratée. Voilà. Ils avaient mieux réussi, par exemple, avec le livre de la jungle. oui. Les plus intéressants. Voilà pour ça. Et puis, peut-être une petite pause musicale, cher Joël. Qu'est-ce que tu proposes, Fabrice, comme morceau ? Est-ce que je garde le mien pour la fin ?
Ah, tu gardes le tien pour la fin ?
Eh oui.
Moi, c'est Martha and the Muffin, Echo Beach, si notre cher programmateur l'a dans ses tuyaux. Voilà. Et c'est parti.
Ça a fait danser tout le monde, ça.
Arrête un peu les zooms, tu me donnes envie de gerber.
Ah, c'est ça qui est sur la caméra, je me demandais pourquoi. Bon, celui qui a eu le plus de chance des trois, en fait, c'est Joël, il a dansé avec Jessica Rabbit.
Oui, quand même, ouais.
Salo. Bah tiens, Jessica Rabbit, ça va donner l'occasion d'introduire, si je peux dire, un dessin animé.
Oui, qui n'a rien à voir du tout, parce que de toute façon, il n'y a même pas de la part.
Strictement rien à voir. Et on va parler du dernier film de Pixar.
Oui.
Encore une fois, qui n'a pas été diffusé chez Jessica Rabbit, s'est fait la malle. Qui n'a pas été diffusé au cinéma, et donc qui a été diffusé sur la plateforme de Disney, à nouveau, Disney+. Donc c'est Soul.
Oui.
Soul, je ne sais pas comment on dit.
Soul, ouais.
Un film de 2020, donc de Ken Powers et de Pete Docter. Alors, Pete Docter, c'est un réalisateur qu'on connaît un petit peu dans le monde du dessin animé, puisqu'il a réalisé Là-haut, il a réalisé Vice Versa, l'excellent Vice Versa, il a réalisé Toy Story 4.
Et il remplace John Lasseter à la tête de Pixar.
Et oui, bah, John Lasseter a eu quelques soucis. Au casting, oui. En VO, on va retrouver Jimmy Fox, on va retrouver Tina Fey et puis Graham Norton. En VF, ce sera Omar Sy, Ramzi Bedia et Camille Cotin. Mention spéciale pour Camille Cotin d'ailleurs. Qui s'y colle?
J'adore Ramzi Bedia. Déjà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et malgré un palmarès qui n'est pas très, forcément toujours très glorieux. Et je trouve qu'en doublage, il se... Mais les trois
s'amusent bien.
Les trois s'amusent bien, ouais. C'est très bon. Ouais.
Le pitch, c'est un professeur de musique dans un collège, Joe Gardner, qui est passionné de jazz, qui va pouvoir réaliser son rêve, jouer dans le meilleur club de jazz de New York, aux côtés d'une légende. Apprenant la bonne nouvelle, un malencontreux faux pas le précipite dans le grand après, dont il s'échappe pour tomber dans le grand avant, un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, il va faire équipe avec 22, ils ont des numéros, c'est comme ça, donc qui est doublé par Camille Cotin. Une âme espiègle et pleine d'esprit, qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine, il va alors tenter, à travers de 22, de repartir sur Terre à sa place, ce qui est un peu fourbe quand même, reconnaissons-le. Alors le prof est sympa, il mène une vie simple, et confronté à sa propre mort, il comprend finalement les valeurs de ses rêves et de ses aspirations. Voilà, alors que dire? Je vais peut-être en parler si tu veux, je te fais ma petite critique, puis tu rebondis.
Si tu veux, mais je te dirai que je suis pas d'accord.
Ça marche, bon, moi, sous son petit air de film léger qui traite de la mort et de la vie après la vie, pour moi le film explore l'essence et l'essentiel de la vie pour mourir apaisé et heureux de ce qu'on a vécu ici. Voilà, c'est super. Ouais, que te dire? Moi, je ne retrouve pas le génie des réalisations précédentes de Pete Docter. Hein. Je ne retrouve pas ce qui avait fait un peu le sel de là-haut ou de vice-versa, par exemple. Le propos, moi, je le trouve super simpliste. Je le trouve complètement orienté. Et complètement, je te le disais en aparté, occidentalocentriste au sens néolibéral du terme. C'est-à-dire que, bah oui... Hein, elles sont mignonnes, ces petites âmes qui, avant d'aller sur Terre, se voient attribuer les passions qui vont les animer, voilà, sur Terre, le piano, les belles choses de la vie. Hein. Et voilà, ça marche que dans les pays en fait où on a accès à l'éducation, on est d'accord. Ça marche que dans les pays où on a accès à un bon niveau de vie, parce que bah, sinon, je ne sais pas comment expliquer. Enfin, moi, ma question, c'est comment un enfant qui va être né sous les bombes ou né dans une famille un peu miséreuse. Et je dis ça non pas de manière péjorative, hein, mais une famille aux revenus modestes va pouvoir s'identifier à ces petites âmes insouciantes du grand avant, parce que sinon, elles peuvent être en colère, quoi, disant « putain, qu'est-ce qui a merdé ?» Voilà, il ne fallait pas naître sous les bombes, quoi. Ou alors, je ne sais pas, une passion pour la guerre, peut-être, hein, ou il ne faut pas naître dans un pays en famine, ou une passion pour la bouffe. Bon, en fait, le film est sympa. Il est sympa, mais il va explorer, je trouve, des tas de pistes intéressantes. Et au moment où finalement il pourrait vraiment pousser un peu le bouchon, quoi, bah ça s'arrête. La question de la dépression, par exemple, la question des âmes perdues liées à la dépression.
Qui est évoquée, mais ils vont pas jusqu'au bout. Hein.
Ils vont pas jusqu'au bout. La question, j'en parlais là, mais la question de ces petites âmes là qui à qui on va leur prêter ouais qui vont s'intéresser à quelque chose et ça va animer le sens enfin ça va leur donner le sel de la vie bah c'est mignon mais ça marche pas partout enfin voilà c'est très bon enfin chez moi ça a pas marché et puis je trouve dommage aussi c'est on a un personnage qui est sympathique qui est c'est un black voilà bon passionné de jazz pour moi il y a quelque chose un peu de cliché là-dedans mais
c'est on est d'accord.
Et c'est un personnage qui aurait vraiment pu faire une belle figure quoi, à l'époque du Black Lives Matter et qui est gâché justement par des clichés, des choses qui enferment en fait le personnage dans un archétype de personnage noir, de héros noir. Voilà. On a l'impression qu'ils n'ont pas réussi à s'émanciper de ça, finalement. Alors oui... Il y a quelque chose de très identitaire là-dedans, mais à nouveau, voilà, il n'atteint pas ses rêves. Son rêve, c'est de devenir musicien, enfin, pianiste de jazz auprès d'un personnage qui fait vraiment penser à Elliot Fitzgerald, et qui est un personnage à la fois très charismatique et en même temps qui semble un petit peu blasé de la vie, blasé de tout. Enfin, voilà, ces pistes-là, c'est pareil, elles n'ont pas été poussées suffisamment loin. La question de la transmission, qui à un moment donné est évoquée aussi, que ce soit à travers l'élève qui vient le chercher pour l'intégrer au groupe, ou à travers la petite âme 22, là. Enfin, même, voilà. Cette question de la transmission des bonnes valeurs, etc., c'est effleuré, mais ça ne va pas au bout. Enfin, et puis, l'acceptation de... l'acceptation, finalement, de la condition de mortel. Ça aurait été intéressant de pousser le bouchon jusqu'à dire que, finalement, ce qui est intéressant dans la vie, c'est de la vivre. Et ce n'est pas courir après des rêves, quoi. Enfin, même si c'est notre lot à tous, hein, d'avoir nos rêves et nos frustrations, mais de resserrer les choses sur cet essentiel-là. Alors, ça fonctionne sûrement très, très bien sur des enfants, etc. C'est sûrement ce que tu vas me dire. Moi, sur l'enfant qui est encore un petit peu en moi, qui s'est émerveillé devant Vice-Versa ou devant là-haut, là, c'est pas émerveillé. Il y a quelques séquences très sympathiques, très drôles. Hein. La séquence dans l'hôpital, notamment, est à mourir de rire. Mais ça va pas assez loin, parfois. Enfin, voilà. Et la question du chat aussi. Il y a un truc qui ne va pas avec le chat.
Oui, ouais.
J'explique pour le chat. En fait, il y a une âme qui va intégrer le corps d'un chat et on nous explique de long en large que ce n'est pas possible d'intégrer un corps vivant parce que sinon, ça efface la mémoire de l'être vivant, mais pas chez les chats. Voilà.
Oui, puis on voit le chat sur le tapis roulant à un moment. Donc, logiquement, l'âme du chat a disparu. Et elle réapparaît comme par magie. C'est de la magie, de toute façon. Mais, non, moi, j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur Pixar. Après, j'étais étonné de voir les critiques au départ dithyrambiques qu'il y avait sur ce film en disant que c'était un chef-d'œuvre et tout. Je pense pas que c'est un chef-d'œuvre. J'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé. J'ai vraiment regretté de pas pouvoir le voir au cinéma sur un grand écran parce qu'il est, je trouve, très beau. L'animation est plutôt est très réussie.
Sur le plan technique, on pourra en parler, mais sur le plan technique, le film est sans faute. Hein. On est bien d'accord. Hein.
Et après, comme toi tu disais, moi non plus, je me suis pas du tout identifié au personnage, contrairement au film là-haut où je trouve que la scène d'ouverture du film là-haut, quand on a le droit à la vie de. À la vie du héros et de sa compagne, c'est pour moi une des plus belles ouvertures de film qu'on ait jamais vues. Enfin, c'est extrêmement prenant. C'est pas aussi bien réussi que Vice-Versa. Mais Vice-Versa, il y a aussi des moments qui sont un peu, moi je trouve, un peu lourds. Mais tous les moments qu'on a dans Soul avec le bateau et avec le personnage qui est doublé par Ramsey ressemblent beaucoup. Ressemble beaucoup à ce qui se fait dans Vice-Versa, en fait. Hein,
tout à fait.
Voilà. Les références à l'art et tout aussi, ça ressemble. En fait, l'univers onirique qu'il y a, le grand après et surtout le grand avant, ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans Vice-Versa. On comprend, on voit bien que c'est le même réalisateur. Après, moi, je suis content parce que ça faisait. Enfin, je ne sais plus le film qui se passe au Mexique, là.
Ah, Coco.
Coco. Mais autrement, Pixar avait tendance à faire beaucoup, beaucoup de suites. Et ça devenait je trouvais que ça baissait un petit peu. Enfin, moi, j'étais moins surpris. Là, je suis content d'avoir vu un peu autre chose, quoi. Mais c'est vrai qu'après, en y réfléchissant, ça ressemble quand même beaucoup à Vice-Versa.
C'est pas un mauvais film en soi. C'est un bon moment de divertissement, hein, tout à fait. Hein. Mais c'est un bon moment de divertissement que je trouve très, très formaté, quand même, avec de très bonnes idées. Enfin, sur le plan technique, c'est plutôt pas mal. Mais par exemple, la question, l'idée de Michel, les Michel, je trouve ça génial. Oui. Quoi. Ces espèces de personnages en 2D qui ressemblent à rien, qui sont des espèces de tableaux de Picasso ambulants, mais qui sont très réussis. Ou le comptable qui compte les âmes, il est génial, ce personnage-là. Il n'est pas assez exploité non plus. Quoi. Alors, les séquences où, effectivement, on voit ce personnage sur son bateau. Alors, ce personnage-là, c'est un type vivant qui explique qu'on peut arriver à des états de grâce qui nous amènent dans ce grand avant. C'est-à-dire qu'un dessinateur ou un musicien, etc., peut à un moment donné entrer en état de grâce. Il n'y a plus la notion de temps, il est dans un autre monde. Et cet autre monde, c'est un espèce d'endroit où il va naviguer un grand avant de sérénité. Mais ça, c'est pareil. C'est sympa, mais ce n'est pas exploité. Pas assez exploité, cette question-là.
Surtout que ce personnage-là utilise ce mode-là pour fuir sa vie, en fait.
Et tout à fait. Ouais, et puis on voit bien qu'il est... C'est un personnage un peu aussi hors du temps. Tiens, on est un petit peu encore dans la thématique du temps suspendu, mais c'est... même ça, c'est pas assez exploité. Alors peut-être que c'est compliqué de tout ramasser sur un format d'une heure et demie. Le film est assez court, hein. Mais tellement de pistes sur lesquelles on a envie de s'engager, et puis d'un coup, bah, c'est du dead end, quoi. Ça s'arrête et puis il faut aller ailleurs. Moi, ça m'a frustré, en fait, clairement. Et encore une fois, hein, moi, je reste sur cette critique. La critique la plus sévère que je vais faire au film, c'est ce côté d'archétype de personnage noir. On n'a pas réussi à s'en détacher, quoi.
C'est ce que j'ai ressenti aussi. Il coche quand même beaucoup de cases de comment, du cliché, en fait, dans ce genre de film. Ça va, ouais. Ça va du club de jazz jusqu'au coiffeur. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais après, les images sont vraiment très belles. Moi, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu au cinéma.
Ça reste un dessin animé. Ça reste un dessin animé de qualité sur le plan technique, encore une fois. Mais pas sur le message. Non. Je suis triste. Ouais.
Bon.
Donc, je te propose de clore cette émission avec une chanson qui pourra peut-être aller avec nos derniers propos. Un morceau qu'on a déjà passé, un morceau de Clarica qui s'appelle Bien Mérité. Ce serait bien que tu laisses Jessica tranquille, Joël. Donc un morceau avec de Clarica qui s'appelle Bien Mérité, voilà. Cher ami, dans un mois.
Dans un mois, on fait les effets spéciaux dans un mois ou pas? Les films avec des effets spéciaux numériques réussis.
Ah oui, ça va être une.
Pas dans les premiers films, hein, pas maintenant. Maintenant, ils sont réussis.
Ça marche.
Ok.
La petite carte en plastique que l'État m'a donnée.
Ciao.
Salut.
Ah ouais, je l'ai bien mérité. Naître en République dans une clinique chauffée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. D'étudier. Ah ouais, je l'ai bien mérité. Aller voir mon docteur quand je me sens fatiguée. Ah ouais, je l'ai bien mérité. La douceur de l'enfance, l'amour qu'on m'a donné. Bah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Nager. Bah non, on a que ce qu'on mérite, alors t'as mérité.